Et avant de commencer, on va faire quand même un bref résumé des épisodes précédents. Alors, nous avons appris ce qu'était E comme énergie, cette quantité qui ne change pas quand quelque chose se passe. Tout était plus ou moins clair avec énergie, je pense, hormis le gros problème de cette énergie noire, qui est un ingrédient utile pour que nous puissions calculer avec les outils qui sont à notre disposition la dynamique globale de l'univers. Et puis nous sommes passés à M pour la masse. Alors la masse qui semblait a priori un concept simple, et pourtant on a rencontré deux gros os. On avait abordé la masse sous deux aspects différents. Le premier, masse, quantité de matière qui nous avait emmené dans l'infiniment petit. Et puis, le deuxième aspect était la masse comme coefficient qui permet de faire des calculs qui nous avait emmené dans l'infiniment grand. Et comme dit, chaque fois, nous sommes tombés sur des os que nous ne sommes certainement pas prêt de résoudre. À l'échelle de l'univers, nous avons vu qu'il est nécessaire d'introduire une chose nouvelle qu'on a appelée matière noire et qui nous permet de décrire, toujours avec les outils dont nous disposons actuellement, permet de décrire comment les objets bougent dans le ciel. Donc, c'est-à-dire à la fois comment les étoiles se déplacent dans les galaxies ou comment les galaxies elles-mêmes se déplacent dans les amas de galaxies. Énergie noire, dont malgré tous les efforts mis en œuvre par les chercheurs du monde entier, on n'a, je dirais, strictement aucune idée de quelle est la nature de cette énergie, de cette matière noire. Puis, nous sommes allés du côté de l'infiniment petit. Et nous avons appris que les briques élémentaires de toute matière, ces briques élémentaires étaient sans masse. Leur masse était nulle. Et donc elles n'avaient pas comme propriété fondamentale, de façon innée, une masse. Et que cette masse, la masse que nous mesurons dans le laboratoire, elles l'ont acquise par interaction avec un champ quantique. Champ quantique qui s'est manifesté très tôt au début de l'histoire connue de l'univers et champ quantique dont on a prouvé l'existence grâce à la découverte du très médiatique boson de Higgs. Et je pense qu'elle ne fut pas votre surprise et peut-être ma surprise d'apprendre que cette masse acquise par les briques élémentaires suffit à peine à rendre compte de la masse des objets de matière ordinaire. Ainsi, le proton a une masse 100 fois supérieure à la masse de ses constituants, c'est-à-dire les trois quarks qui constituent le proton. Aristote aurait dit que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Et je vous avais posé comme question à la fin du cours, pourquoi pesons-nous autant? Si vous n'avez pas encore la réponse, ben je vais vous laisser une semaine supplémentaire pour y réfléchir. En principe, vous avez les éléments pour le faire. En attendant, on va parler de C. Alors, tout de suite, le petit 2 qui est au-dessus du C, donc c'est C au carré. On va pas en parler, ça n'a aucune importance. Bon, c'est très important, bien sûr, il existe dans l'équation, mais il n'a aucune signification physique. Donc, que représente C? Car je vais vous proposer deux options. Premièrement, première option, C est une constante universelle qui nous est donnée par la nature et qui décrit la structure de l'espace-temps, ou plutôt qui décrit la structure telle que nous la concevons de l'espace-temps. Première option. Deuxième option, C comme célérité, C représente la vitesse de la lumière. Alors, on va faire un sondage qui pense que C représente l'option 1. Qui pense que C représente l'option 2. Il y en a qui pensent que c'est les deux en même temps. Bien. Alors, la bonne réponse, C est une constante universelle donnée par la nature et qui, comme je l'ai dit, structure l'espace-temps tel que nous le concevons aujourd'hui. Alors, si on revient, si on regarde l'équation E égale mc2, on va essayer de regarder quelles sont les unités dans lesquelles on exprime C. On sait que E, on a vu, c'est des joules. M, c'est des kilogrammes. Donc, pour avoir une cohérence, donc que l'équation soit cohérente, il faut que C s'exprime en mètres par seconde. Alors, tiens, mètres par seconde, c'est une vitesse. Donc, C a les dimensions d'une vitesse. Et en fait, dans notre espace-temps, tel que le voit... je vais lancer le mot la relativité restreinte, C est la limitation de vitesse imposée à tout objet dans l'univers. Donc c'est la vitesse maximum à laquelle peuvent se déplacer les objets. Et encore, seuls les objets ou les particules de masse nulle peuvent se déplacer à cette vitesse et ne peuvent se déplacer qu'à cette vitesse. OK. On verra un peu plus ça en détail la semaine prochaine. Maintenant, ceux qui pensent, et c'est la majorité d'entre vous, que C est la vitesse de la lumière, n'ont pas tout à fait tort. Puisque je viens de le dire, C est en unité, une unité de vitesse. Donc, l'associer à la vitesse de la lumière, c'est simplement historiquement vrai. Historiquement, on a associé C à la vitesse de la lumière, mais rappelez-vous, que C n'est pas la vitesse de la lumière, c'est une constante, et il se trouve que la lumière se déplace à une vitesse égale à cette constante. Alors, puisque on est tous d'accord que quand même c'est la vitesse de la lumière, on va parler de la vitesse de la lumière. Donc C comme célérité de la lumière. La première chose à faire, célérité, bon, c'est pourquoi célérité, pas vitesse, donc c'est, C a été adopté à la dans la deuxième moitié du 19e siècle, donc bien tardivement, et quand on savait déjà que la vitesse de la lumière, c'était quelque chose qui va vite. C'est célérité, c'est du latin célère, qui veut dire rapide, instantané, prompte. Donc l'information qu'on veut donner avec C, c'est que la vitesse de la lumière, c'est quelque chose qui va vite. Alors ceci était un débat... je dirais presque de tous les temps, depuis que les philosophes et les physiciens après s'interrogent sur le phénomène de la lumière, quelle est la vitesse de la lumière? Et plus largement, est-ce que la vitesse de la lumière est finie ou est-ce que la vitesse de la lumière est infinie? Alors, vaste question. Et dans l'Antiquité, les philosophes ont toujours associé le phénomène de vision et le phénomène de lumière. On ne peut pas voir sans lumière, on ne peut pas avoir de la lumière sans vision. Vous fermez les yeux, vous voyez plus de lumière. Donc, ils ont associé de façon systématique ces deux phénomènes et l'un explique l'autre et vice-versa. Alors, dans l'Antiquité grecque, les philosophes n'étaient pas d'accord sur ce qu'était ce phénomène de la lumière, ce phénomène de la vision. Ils avaient chacun un peu une théorie un peu différente. Et en plus, ils n'étaient pas d'accord du tout si la lumière avait une vitesse finie ou une vitesse infinie. Alors, dans quelques exemples, Empédocle. Empédocle, bon, vous connaissez, c'est le gars qui est venu, qui a inventé les quatre éléments qui seraient à l'origine de toute matière. Empédocle lui dit, c'est vraiment une chose qui se déplace. Une chose qui se déplace a forcément une vitesse, vitesse infinie, bon, c'est pas clair ce que c'était. Donc, Empédocle, une chose qui se déplace à une vitesse finie. Au contraire, Aristote, lui, imaginait la lumière comme, disons, aucun objet, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun phénomène d'un objet qui se déplace. C'est la présence d'une chose. Donc, la lumière existe, mais rien ne se déplace. Et donc, la question de savoir si la vitesse est infinie ou finie ne se pose pas, puisque rien ne se déplace. La majorité des philosophes, notamment Euripide, Platon, et surtout Lucrèce, eux imaginaient aussi qu'il y avait une chose qui se déplace, mais cette chose allait à une vitesse infinie. Donc vous voyez, il y a vraiment une diversité d'opinions à la fois sur la nature du phénomène et sur les propriétés du phénomène. Et comme exemple, on peut aussi donner l'histoire d'un philosophe mathématicien, Héron d'Alexandrie, qui, à partir d'une hypothèse fausse, d'une expérience vraie, est tombé sur une réponse fausse. Donc lui s'imaginait le phénomène de vision comme l'œil va envoyer quelque chose vers l'objet qu'il regarde, et il s'est dit, si c'est vrai, je vais pouvoir mesurer la vitesse de la lumière. Comment va-t-il faire? Il va tourner la tête vers un ciel, une nuit bien étoilée, il ferme les yeux, il les ouvre, et dès qu'il ouvre les yeux, il voit immédiatement les étoiles. Et les étoiles pourtant sont très loin. Donc cette chose qui va de son œil vers l'étoile ne met pas un certain temps pour y aller, sinon il y aurait un délai entre l'ouverture des yeux et la vision de l'étoile, et donc il conclut la vitesse de la lumière ou la vitesse de ces objets qu'il assimile à la lumière est infinie. Les philosophes arabes dans le haut Moyen Âge, donc par exemple Avicenne ou Avicenne, ils reprennent l'idée d'Empédocle, il y a quelque chose qui bouge, donc quelque chose qui va à une vitesse, et eux ils disent la vitesse elle est peut-être finie, mais elle est très grande, en tout cas elle est suffisamment grande pour que nos sens ne puissent pas distinguer la vitesse des choses. En d'autres termes, ils disent c'est instantané, mais instantané, que veut dire instantané? Ça veut dire que le délai entre le moment où l'objet émet la lumière et le moment où vous voyez la lumière, ce délai est nul. Si ce délai est nul, la vitesse est infinie. Si le délai est très petit, la vitesse est finie. Avicenne dit la vitesse est finie, mais le délai est si petit que nos sens ne peuvent pas le distinguer. Très bien. Kepler. Alors là, on est déjà au XVIIe siècle. Kepler, il observait le ciel, il voyait les planètes, il voyait surtout que l'espace était plein de vide, ou vide de plein. Bon, il n'y avait pas grand-chose dans l'espace, en tout cas pas grand-chose qui puisse ralentir la lumière. Et donc, il conclut, la vitesse de la lumière est infinie. Et on va terminer avec Descartes. Alors Descartes, pour lui, il était très important pour en raisonnement en physique de préciser cette histoire de vitesse de lumière. Et de nouveau, il reprend un peu l'idée de Aristote en disant que c'est une présence de quelque chose et qu'il n'y a transport d'aucune chose. Et il donne comme exemple, je ne sais pas si on peut appeler ça la parabole de l'aveugle, il dit « Voyez l'aveugle qui se guide avec son bâton. Avec son bâton, il va toucher les objets sur son chemin et il va reconnaître s'il touche du sable, une pierre, du bois, de l'eau, etc. » Et donc la formation de l'objet qu'il touche va directement à son bras, à travers le bâton, sans qu'il y ait transport de quelque chose. Donc, pour Descartes, lui aussi, alors je veux quand même vous lire la conclusion. La lumière n'est autre chose dans le corps qu'on nomme lumineux, qu'un certain mouvement ou une action fort prompte et fort vive qui passe vers nos yeux par l'entremise de l'air et des autres corps transparents, en même façon que le mouvement ou la résistance des corps que rencontre cet aveugle passe de son bâton. Il n'est pas besoin de supposer qu'il passe quelque chose de matériel depuis les objets jusqu'à nos yeux pour nous faire voir les couleurs et la lumière. Donc pour lui, il n'y a pas d'échange, quoi que ce soit, entre l'objet qui émet la lumière et la chose, l'œil qui perçoit la lumière. Et il conclut, la lumière est un certain mouvement, une action fort prompte et fort vive. Alors, si on regarde toutes les conclusions, on remonte jusqu'à l'antiquité grecque, on dit toujours, bon, la lumière, soit ça va vite, ça va très vite, c'est prompt, c'est fort, vif. C'est pas scientifique tout ça. Alors pour faire de la vraie science, pour déterminer quelle est la vitesse de la lumière, il n'y a qu'une solution. Il suffit de mesurer la vitesse de la lumière. Et c'est quelque chose que vous avez déjà fait de façon peut-être inconsciente. Vous vous souvenez, une nuit d'orage, vous regardez les éclairs, vous écoutez le tonnerre, et vous arrive de compter le temps entre la vision de l'éclair et le temps où vous entendez le tonnerre. La conclusion que vous faites, parce que vous connaissez la vitesse du son, vous dites je multiplie le temps par 330 mètres secondes et je trouve la distance à laquelle est tombée la foudre. Mais vous avez inconsciemment conclu que la lumière va plus vite que le son. Et même type d'expérience a été réalisé en 1629, donc on remonte un peu loin dans le temps, par un Hollandais qui s'appelait Isaac Beckman, un copain de Descartes, et lui regardait le tir des canons. Donc il s'est positionné à 1000, qui est à peu près 1,6 km du canon, et il regardait les canons tirés, il voyait la lumière et il écoutait le son du canon. Avant, il fallait qu'il évite le boulet parce que le boulet va plus vite que le son du canon. Et il a conclu que la lumière voyage beaucoup plus vite que le son. Bien. La propagation est quasi instantanée. Hein. Donc, quasi instantané, c'est nouveau, c'est pas très scientifique. Et tant que vous n'avez pas défini ce qui est instantané, vous savez pas ce qu'il veut dire. Et en plus, quasi instantané, bon. Alors, on va faire appel à notre copain. Donc, il y en a qui me reprochent de parler à chaque fois de Galilée, mais on va parler de Galilée une fois de plus. Donc, Galilée, dans son dernier livre, Discours et démonstrations mathématiques appartenant à deux sciences nouvelles, va proposer une mesure de la vitesse de la lumière. Alors, on va s'attarder un peu là-dessus, parce que bon, moi, j'aime bien Galilée, les choses sont bien écrites et racontent de belles histoires. Alors, vous savez que ses discours, donc c'est le deuxième livre qu'il a écrit, et pour les discours, donc, il avait une injonction du pape qui lui disait « Tu peux publier à condition de présenter à égalité la pensée d'Aristote et de la scolastique et ta pensée à toi. » Donc il le fait de façon très maligne et avec une mauvaise foi évidente. Il va mettre en scène trois personnages, ces trois Vénitiens qui vont discuter pendant 4 jours de choses et d'autres concernant la physique. Un de ces personnages, qui s'appelle Salviati, lui va exposer les idées de Galilée. Donc Salviati, c'est Galilée qui parle. Celui qui va défendre les idées d'Aristote, il s'appelle Simplicius. Déjà le nom. Et ensuite, ben, quand il y a un duel entre deux, ben, il faut un arbitre. Donc, il y a un arbitre qui s'appelle Sagredo. Cet arbitre est totalement impartial, sauf qu'à la fin, il est toujours d'accord avec Salviati, c'est-à-dire avec Galilée. Donc, c'est ça la mauvaise foi de Galilée. Donc, c'est Sagredo qui lance la discussion ce jour concernant la lumière et il demande « Mais de quelle nature et de quelle ampleur devons-nous considérer cette vitesse de la lumière ?» Ok. Simplicius met tout de suite les pieds dans le plat et dit « Ben, Yalga Beckman, lui, il a mesuré avec le truc du canon et il a dit que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son et elle est quasi instantanée. » Donc, la vitesse de la lumière est infinie. Bon, bien sûr, Sagredo le reprend. Non, tout ce qu'on peut dire, c'est que le son va plus vite que la lumière. Et il demande à Salviati, mais vous, est-ce que vous avez une idée de comment mesurer la vitesse de la lumière? Et Salviati va lui répondre. Alors, je ne vais pas vous lire la chose, je vais vous dire ce qu'il propose. Donc, il faut deux bons physiciens, des expérimentateurs, chacun avec une lanterne dont on peut masquer la lumière. Donc, les deux se mettent face à face. Il y en a un qui soulève le cache. Dès que l'autre voit la lumière du premier, il soulève son cache à lui et le premier observateur va regarder la différence de temps entre le moment où il a soulevé son cache et le temps où il a vu la lumière de l'autre lanterne. Donc, deux fois la distance, x égale vt, hein, il suffit de mesurer le temps, de regarder la distance et on arrive à le faire. Donc, il raconte, c'est assez drôle. Donc, bien sûr, je sais pas si vous avez essayé de faire ce genre d'expérience. Vous êtes toujours influencé par le regard ou dès qu'il y a un, bon, ça marche jamais. Donc, il s'exerce très longuement. Et après, à être sûr qu'il n'y ait pas d'influence parasite entre les deux, il s'éloigne. Ils vont sur deux collines du côté de Florence, qui est aussi distant de 1 mille, donc 1,6 km, ils font l'expérience et bien sûr, Galilée concède, j'ai rien vu. Je n'ai pas été en mesure de déterminer avec certitude si l'apparition de la lumière opposée était instantanée ou non. Donc, c'est une expérience avec un résultat nul. Mais elle a le mérite d'être la première expérience. Galilée propose un protocole d'une mesure scientifique. Et vous allez voir que ce protocole va être utilisé jusqu'à la moitié du XXe siècle. Alors, cette vitesse de la lumière, vous allez me dire, je viens de dire qu'il faut, on l'utilisera jusqu'au XXe siècle. Pourquoi ça n'a pas plus préoccupé les gens à l'époque? Ben déjà, la vitesse de la lumière, connaître cette vitesse n'avait aucune application. Donc, pourquoi la mesurer? Par ailleurs, Huygens, qui venait de développer la mécanique ondulatoire pour décrire les phénomènes lumineux, n'avait pas besoin de connaître la vitesse de la lumière. Donc, cette vitesse de la lumière ne servait pas à grand-chose, donc les gens ne se fatiguent pas à mesurer, ils se fatiguent pas à améliorer la technologie de Galilée pour obtenir de meilleurs résultats. Ce qui préoccupait en revanche les gens à l'époque, les gens, les conquérants, les marchands, les gouvernants, par exemple, fallait déterminer la ligne de partage entre le monde portugais et le monde espagnol. Rappelez-vous le traité de Tordesillas. Il s'agissait de pouvoir se localiser sur Terre. Se localiser, latitude, bon, c'est facile à faire, hauteur du soleil, etc. Pour la longitude, c'est une autre paire de manches. On ne sait pas mesurer de façon précise la position, la longitude de l'endroit où vous êtes, à moins d'avoir une horloge hyper précise qui garde l'heure d'un point de référence. Et donc, comment faire? Vous imaginez bien que le roi d'Espagne était très préoccupé par savoir exactement de connaître exactement les positions sur le globe, et il propose une forte récompense à qui trouverait une méthode pour mesurer la longitude. Et qui fut le premier à trouver une solution? C'est Galilée. Galilée venait de découvrir Jupiter et les lunes de Jupiter. Et il avait bien mesuré les orbites des lunes de Jupiter, et il propose d'utiliser les orbites autour de Jupiter comme horloge astronomique. Petite fin là. On va voir comment il a fait. Donc, manque de peau pour regarder les lunes de Jupiter, il faut un télescope sur un bateau, ça marche pas très bien. Donc, il n'a pas eu la récompense de Philippe III, en revanche, la méthode a été retenue comme bonne. Et un des premiers à l'utiliser, c'est Cassini. Jean-Dominique Cassini, qui est le premier d'une longue lignée de Cassini, a été nommé le directeur de l'Observatoire Royal de Paris, qui venait d'être créé par Louis XIV. Et une des principales tâches qui était donnée à cet observatoire est de déterminer de faire une carte de France réaliste. Et bien sûr, plus tard, une carte d'Europe. Alors, Cassini, qui était avant tout astronome, il va se lancer là-dedans et il va utiliser deux techniques. La première technique, c'est la technique de triangulation pour mesurer les distances, technique qui a été inventée par Thalès, donc il y a très longtemps. La deuxième technique, mesurer la longitude, il va prendre l'histoire de Galilée, donc des lunes de Jupiter. Et il va obtenir une carte de France. Vous voyez la carte de France, les traits gras, c'est la carte de France qu'il vient de construire, et les traits fins, c'est la carte de France telle qu'on la connaissait avant. Ce qui a fait dire à Louis XIV que les astronomes lui ont fait perdre plus de territoire que tous les ennemis de la France réunis. Bon, alors, il faut pour la mesure des longitudes, l'orbite des planètes de Jupiter, que faut-il faire? Il faut construire des éphémérides. Donc, il faut savoir à quel moment. Donc, ils utilisent en fait les éclipses de la planète. Il faut mesurer à quelle heure, exactement quand les planètes sont éclipsées par la planète Jupiter. Et pour cela, donc, des éphémérides, et il charge un jeune Danois qu'il avait repéré, qui était assez doué pour faire des mesures, qui s'appelle Ole Rømer. Il l'invite à Paris, lui donne même un poste à l'Observatoire national et lui demande « mesure-moi les éphémérides des éclipses de Io, qui est la première planète de Jupiter, et tu me fais ça avec une précision la meilleure possible, et tu fais ça sur toute l'année. » Donc, Rømer, il s'y colle, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit pendant 6 mois de l'année, il voit que le temps de l'éclipse bouge, disons, retarde, ça vient de plus en plus tard, pendant 6 mois de l'année, et les 6 mois suivants, on rattrape le temps perdu pour retrouver le temps initial. Alors, grosse curiosité, est-ce que j'ai fait une erreur dans la mesure? Est-ce qu'il y a un problème avec Io? Il avait aucune suspicion sur la régularité de l'orbite de Io. Il met à peu près 42 heures et quelques miettes pour tourner autour de Jupiter. Et il va proposer la solution suivante. Alors, c'est là que vous allez comprendre comment ça marche d'ailleurs. Alors, regardez bien. Vous avez cette image en A, le Soleil. Le grand cercle autour du Soleil, c'est l'orbite de la Terre. Okay? En haut, en B, vous avez Jupiter. Le petit cercle autour de Jupiter, c'est l'orbite de la planète Io. Et donc, vous voyez que la planète Io, lorsqu'on l'observe de la Terre, à certains moments, va se cacher derrière Jupiter, ce qu'on appelle l'immersion de Io par Jupiter, et un peu plus tard, la planète va réapparaître, ce qu'on appelle l'émergence de la planète. Et le tout, c'est de mesurer le temps à laquelle a lieu l'émergence et l'immersion. Et ce que remarque donc Rømer, c'est que ce temps va être décalé pendant 6 mois dans un sens et pendant les 6 mois suivants dans l'autre sens. Et il interprète la chose de la façon suivante. J'observe une première émergence en D. Donc, pouf, je vois Io apparaître. La Terre est en L. D'accord? Donc, je vois, je mesure l'heure et j'attends, bon, un certain temps. Et je regarde une autre émergence. Je note l'heure et à ce moment-là, la Terre est en K. D'accord? Et il va dire, ben, la lumière pour aller de D en L ou de D en K va mettre un temps différent puisque le chemin est plus long. Donc la différence en temps d'émergence de la planète Io est due à la différence de la trajectoire que doit faire la lumière, c'est-à-dire la trajectoire LK. Vous prenez le truc dans le sens inverse, vous verrez que ça raccourcit. Donc, il observe ça pendant toute l'année, il fait un certain nombre de mesures et il donne son interprétation. Alors, l'interprétation est publiée dans le tout premier journal scientifique au monde. Ça s'appelait le journal des savants. Et curieusement, il dit que la lumière va mettre un certain temps, mais il donne pas la valeur de la vitesse de la lumière. Et pourquoi ? Parce que cette vitesse de la lumière va dépendre de la connaissance de l'orbite de la Terre, c'est-à-dire de la distance de la Terre au Soleil. Et comme c'était mal connu, je pense qu'il a préféré s'abstenir. Néanmoins, il a laissé plein de notes et on peut reprendre à partir de ces notes, refaire les calculs et déterminer donc ce que trouve Römer. C'est que la lumière met 10 à 11 minutes pour aller du Soleil à la Terre. 10 à 11 minutes pour aller du Soleil à la Terre. Bien. Alors, c'est dans la communauté scientifique un enthousiasme presque unanime. Newton, Descartes, tout le monde est vachement content. On a démontré pour la première fois que la vitesse de la lumière est finie. On connaît pas tout à fait la valeur. On la connaît, on peut la connaître, mais ça suppose connaître donc la dimension de l'orbite de la Terre. Et c'est Huygens, donc qui est le père de la mécanique de la physique ondulatoire de la lumière, qui dans son traité de lumière va reprendre les données de Römer, va en faire davantage, et il va conclure sur quelle est le temps mis par la lumière pour traverser l'orbite terrestre. Alors comme c'est assez savoureux, alors je pense que c'est dans le... Ouais. Je vais vous lire ce qu'il écrit. La lumière met donc 22 minutes pour parcourir 22 000 diamètres de la Terre, soit 1000 diamètres en une minute et 16 diamètres deux tiers en un battement d'artère, ce qui fait 1100 fois 100 000 toises, puisque le diamètre de la Terre contient 2864 lieues de 25 degrés, que chaque lieue est de 2232 toises. Vous avez suivi? Donc, en résumé, la lumière met donc 22 minutes, donc il retrouve le même chiffre que Römer, 11 minutes pour faire le chemin entre le Soleil et la Terre. J'ai dit que c'est la quasi-unanimité. Alors quasi, ça veut dire c'est pas tout à fait l'unanimité. Cassini, par exemple, le patron de Römer, était pas tout à fait convaincu. Son argument est de dire mais ça marche pas avec les autres planètes de Jupiter. Il est vrai que déterminer les orbites des autres planètes est un peu plus compliqué. En plus, elles s'influencent mutuellement. Donc, elles sont pas très utiles pour ce genre de mesures. Il faudra attendre un tout petit peu pour qu'un autre astronome, James Bradley, lui va utiliser l'aberration stellaire pour mesurer la vitesse de la lumière. Alors là aussi, c'est un principe enfantin, mais encore fallait-il y penser. Alors, pour vous faire comprendre comment ça marche, je vais donner un petit exemple. Vous êtes un jour de pluie à Strasbourg, il n'y a absolument pas de vent, la pluie tombe bien verticalement. Que faites-vous ? Vous ouvrez votre parapluie et vous n'êtes pas mouillé. arrive le tram et vous voulez attraper le tram, vous mettez à courir. Si vous gardez votre parapluie à votre verticale, vous allez prendre toute la pluie dans la figure. Donc instinctivement, ce que vous faites, vous penchez le parapluie d'un certain angle qui tient compte de la vitesse de la chute de la pluie et de votre vitesse de course. Instinctivement, vous n'avez pas calculé, bien sûr. Alors pour ceux qui préfèrent l'autre, un autre exemple, c'est la chasse au canard. Vous tirez un canard, vous n'allez jamais viser exactement le canard. Vous visez à l'avant pour tenir compte de la vitesse du canard et de la vitesse de la balle de fusil. Alors Bradley va faire exactement pareil. Il va aller faire la chasse au canard avec les étoiles. Et quand vous observez une étoile, vous ne pouvez pas pointer votre télescope directement sur l'étoile. Parce que vous pointez directement sur l'étoile, et pendant que la lumière vient dans vos télescopes, ben, vous avez bougé parce que la Terre bouge autour du Soleil, et du coup, vous voyez pas l'étoile. Donc, instinctivement, vous allez très exactement pencher votre télescope pour qu'il attrape bien l'image de l'étoile, et vous allez regarder l'angle avec lequel vous inclinez le télescope, que j'ai noté ici alpha, et vous faites ça pendant toute l'année. Donc vous suivez une étoile fixe pendant toute l'année, et vous allez voir, et vous relevez les mesures chaque fois de alpha. Alpha ne va jamais changer, sauf la direction de alpha va changer. Et donc ce que vous verrez, la position de l'étoile que vous voyez va décrire une ellipse. Il suffit de prendre l'angle d'ouverture de l'ellipse, et ce alpha est lié par sa tangente au rapport de la vitesse de la Terre sur son orbite et de C. Vous mesurez alpha, vous connaissez la vitesse de la Terre sur son orbite, 30 km par seconde, vous en déterminez C. Donc Bradley a fait ce genre de mesure, il a choisi un certain nombre d'étoiles fixes, et il conclut que la lumière, pour aller de la Terre au Soleil, pardon, du Soleil à la Terre, mais 8 minutes et 12 secondes. Pour ceux qui connaissent l'astronomie, c'est exactement le temps qu'on adopte aujourd'hui pour cette trajectoire entre la Terre et le Soleil. De nouveau, il ne donne pas une vitesse. Pourquoi ? Parce que ça dépend de l'orbite de la Terre. La vitesse de la Terre dépend de la longueur de l'orbite. C'est François Arago qui, un peu plus tard, va reprendre des mesures de Bradley, va en rajouter énormément, il fera un sacré travail, il va mesurer plein d'étoiles, il trouve toujours le même angle alpha, quelle que soit l'étoile, et il peut ainsi, avec une bien meilleure précision que Bradley, déterminer la vitesse de la lumière, et cette fois-ci, il donne un chiffre. La vitesse de la lumière mesurée à partir de l'aberration stellaire et de 308 303 km secondes avec une erreur de quelques centaines de km secondes. C'est pas mal, hein. Mais difficile de faire mieux en regardant les étoiles. Donc les gens commencent à réfléchir et tout le monde bien sûr pense à Galilée, mais si on reprenait les mesures de Galilée, sachant que nos technologies ont évolué. Et le premier à faire une expérience, c'est Hippolyte Fizeau. Hippolyte Fizeau, je pense que vous le connaissez un peu, c'est l'effet Doppler-Fizeau, c'est-à-dire qui permet de voir le décalage vers le rouge des objets qui s'éloignent de vous. Principe que Hubble a utilisé pour calculer la vitesse d'éloignement des galaxies lointaines. Donc grâce à Fizeau, on a le Big Bang. Indirectement, mais quand même. Donc Fizeau, il va réfléchir à une solution et il va proposer la chose suivante. Donc, je vous rappelle, pour mesurer la vitesse de la lumière, il faut connaître une distance, la distance sur laquelle la lumière se propage, et il faut mesurer un temps. Mesurer un temps, donc Galilée devait mesurer à des temps de l'ordre du millionième de seconde. Pour Fizeau, ça va pas être mieux, mais il a trouvé une super astuce. Alors, c'est pas encore le CNRS, donc on utilise les moyens du bord. Il est aussi membre de l'Observatoire Royal de Paris. Et il va chez son père, qui a une maison de campagne à Suresnes, où il installe un premier équipement. Et puis, il a un copain qui habite à Montmartre. Et donc, Montmartre est un peu en hauteur, donc c'est visible à partir de Suresnes. Et il va utiliser un jeu de miroir et l'outil magique, une roue dentée, qui a été usinée par le génie instrumentaliste de l'époque à l'Observatoire de Paris, Monsieur Fromont. Alors, comment ça marche? Alors, vous avez essayé de suivre la trajectoire en rouge de la lumière. Vous avez une source de lumière qui va arriver sur un miroir semi-réfléchissant. Donc, la lumière, donc vous le mettez au bon angle pour que la lumière soit dirigée vers Montmartre. À Montmartre, un autre miroir qui va retourner la lumière. Sur la trajectoire de la lumière, vous mettez cette roue dentée. Donc, la roue dentée est au repos. Elle va traverser un creux entre deux dents. Elle va revenir, comme la roue ne bouge pas, la lumière va revenir, va traverser le même creux. Et ce que veut voir Fizeau à Suresnes, c'est une tache lumineuse. Il a vu la lumière qui est revenue. Lorsqu'il commence à faire tourner cette roue, alors de temps en temps, la lumière au retour verra une dent ou un creux et verra la lumière clignoter. Plus la roue va aller vite, plus le clignotement va être rapide et votre perception rétinienne ne verra pas la différence et il verra un point lumineux. Mais si la roue va à la bonne vitesse, sur le chemin du retour, la lumière ne va pas passer dans un creux, mais va passer sur la dent qui suit le creux par lequel la lumière est passée à l'aller. Et donc, pouf, il voit plus rien au retour. Donc, il fait tourner sa roue jusqu'à ce qu'il ne voit plus rien. Et à partir de là, les jeux sont très simples. La vitesse de la lumière est donnée par cette formule. Il connaît D, la distance, qui est le chemin aller-retour entre Suresnes et Montmartre. Il connaît F, la fréquence de rotation de la roue, et N, le nombre de dents de la roue. Et à partir de là, il calcule la vitesse de la lumière. Alors, pour vous montrer... Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous montrer après. Très bien. Ça, c'est le dispositif expérimental qui a construit. Donc, ça n'a rien à voir avec une expérience au CERN qui est un peu plus technique. Donc, avec quelques tabourets, donc vous reconnaissez la lampe, la roue dentée à droite avec son mécanisme pour la faire tourner. À la fin, pour la faire tourner, il suffit d'un poids qui tombe. Et donc, le chemin que la lumière fait. Et si vous n'avez, au cas où vous n'avez pas compris, j'ai une super vidéo là que vous pourrez regarder, soit chez vous, soit si on a le temps après, on peut la regarder ensemble. Et il trouve vitesse de la lumière, 315 000 km/s, avec quand même une grosse erreur. Donc l'erreur est encore bien plus grande que ce que les astronomes peuvent faire. La plus grosse fraction part d'erreur est due à la difficulté de mesurer exactement la fréquence de rotation de la roue. Ça, c'était pas facile. Mais ceci dit, grande première, on a mesuré la vitesse de la lumière dans le laboratoire avec la méthode Galilée. Donc plus besoin d'aller regarder les étoiles. Et comme Fizeau est membre de l'Observatoire, bien sûr, son copain Le Verrier, donc vous connaissez Le Verrier, c'est le gars qui a découvert la planète, non, je ne sais plus laquelle, Pluton, non. Bon, qui a découvert une planète en observant les irrégularités de l'orbite de la planète Uranus. Okay. Uniquement par le calcul, il a découvert l'existence d'une nouvelle planète, il a dit où elle devait se trouver, et il a téléphoné aux observateurs d'aller la chercher, ils l'ont trouvée. De même, uniquement par le calcul, il arrive à déterminer la distance Terre-Soleil, uniquement par le calcul. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Son calcul donne une valeur différente de la valeur qui était couramment admise. Donc il se dit, ou bien mon calcul est faux, ou bien il y a un problème, mais allons vérifier. Et il demande à ses collègues de l'observatoire, dit « faites-moi une mesure précise de la vitesse de la lumière ». Donc s'il a une mesure précise de la vitesse de la lumière, et s'il regarde le résultat des aberrations stellaires qui lui donne l'angle alpha, donc il a tout pour déterminer la distance Terre-Soleil. Okay. Et donc il va demander à Foucault, à Léon Foucault, de faire cette mesure. Et Léon Foucault, bien sûr, il va pas reprendre exactement la même chose que Fizeau, il faut que je le plus précis. Et il trouve un système, bon, qui est tout aussi génial, c'est la méthode du miroir tournant. Alors, comment ça marche? Alors, c'est encore plus simple. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire dans le laboratoire, pas besoin d'aller à Montmartre ou à Suresnes. Donc, vous avez une source de lumière qui est masqué par un écran, vous mettez un petit trou dans l'écran pour laisser passer la lumière, et vous dirigez la lumière vers un miroir sur une distance d1. Le miroir va réfléchir cette lumière le long de d2, et le miroir qui est au bout va renvoyer la lumière vers le miroir incliné. Et la distance des deux, vous pouvez la faire presque aussi long que vous voulez, avec des jeux de miroirs, vous pouvez faire plein de chemins, et Foucault est arrivé à faire 40 mètres uniquement avec des miroirs sur le coin d'une table. Alors, il introduit maintenant un miroir tournant, c'est-à-dire pendant que la lumière va du miroir le long de des deux et revient, le miroir va tourner d'un certain angle. Donc c'est un miroir, vous voyez le dispositif là, c'est un miroir qui tourne quand même très vite, il fait 400 tours à la seconde. Et donc, quand la lumière revient et verra le miroir orienté différemment, selon un angle alpha, si vous vous rappelez des lois de réfraction de Descartes, la lumière va être réfléchie selon un angle 2 alpha vers l'écran. Et donc, il vous suffit de mesurer la distance d à laquelle apparaît la tache lumineuse pour déterminer la vitesse de la lumière. Vous connaissez d1, vous connaissez d2, vous connaissez oméga, qui est la fréquence de rotation du miroir. Vous mesurez d, et donc vous en déduisez la vitesse de la lumière. Et il trouve, alors là ça commence à être intéressant, 298 000 km secondes, avec une erreur, bon ça a l'impression de, on a sur ça 100 km secondes, c'est beaucoup, c'est 0,16%. Donc super mesure, il donne le résultat à Le Verrier, qui fait ses calculs et dit bingo, j'avais raison, mes calculs sont bons, les hypothèses précédentes de la distance étaient fausses. Donc astronome et physicien se donnent la main, tout le monde est content. Et il faudra quand même attendre jusqu'en 1935 pour avoir une bien meilleure mesure de la vitesse de la lumière. Nous la devons à Michelson, Albert Michelson, un Américain. Alors là, l'histoire est aussi un peu rigolote. Il était tout jeune, il était instructeur en physique-chimie à l'école navale d'Annapolis, avec des militaires, et son patron lui dit, écoute, tu vas monter un petit TP de mesure de la vitesse de la lumière, tu prends la méthode Foucault pour amuser et éduquer mes futurs officiers. Donc, Michelson s'y colle, il améliore grandement le dispositif de Foucault, pour manque de peau, il n'a pas de sous. L'école n'a pas les moyens de lui payer le truc, et heureusement il a un beau-père, il demande son beau-père que lui finance son expérience, ce qui montre que parfois le mariage fait avancer la physique. Donc il fait cette mesure et il améliore d'un facteur 20 la mesure de Foucault. Bien. Ce qui lui donne une certaine notoriété, il publie en première page du New York Times quand même, à belle époque. Et quelques années plus tard, il a un poste en Californie, et là, il se rapproche un peu de la méthode Galilée. Il va faire une mesure entre deux montagnes en Californie. La première, c'est le mont Wilson, que vous connaissez certainement. C'est là que Hubble a regardé la fuite des galaxies. Et un autre mont, le mont Baldy, qui est à 35 km de distance. Toujours la technique du miroir tournant, et la meilleure encore de beaucoup, la mesure de la vitesse de la lumière. Et c'est pas fini. En 1935, alors là, il commence à avoir sérieusement les moyens. Il va construire un tunnel, un gros tube qui fait 1,6 km de long, dans lequel il fait le vide, et où la lumière va faire le chemin aller-retour une dizaine de fois. Et toujours avec le miroir tournant, bon, c'est pas le miroir tournant de Foucault, c'est une méthode un peu plus sophistiquée, il va obtenir une des meilleures mesures de la vitesse de la lumière. Vous voyez le chiffre ici, surtout regardez l'erreur connue à 11 km seconde près. Ce qui est pas mal, c'est là, bon, ouais, bon, on va y arriver. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on sait faire mieux. Alors, je vais supposer que vous êtes très familier avec les mesures d'interférence. Je suis presque sûr que c'est le cas pour tout le monde. En mesure d'interférence, c'est-à-dire, il faut simplement superposer deux ondes lumineuses. La technique utilisée, vous avez une source S qui est un laser dont vous monitorez la fréquence avec la précision absolue d'une horloge atomique. Et vous envoyez la lumière sur un miroir semi-réfléchissant. La lumière bleue va aller tout droit. La lumière rouge va aller à la verticale. Les deux vont rencontrer des miroirs qui renvoient la lumière. La lumière se superpose et si les distances D1 et D2 sont strictement égales, vous allez avoir une interférence maximum. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est de modifier une des deux distances pour éteindre totalement la lumière, c'est-à-dire pour que les deux ondes soient parfaitement en opposition de phase pour éteindre la lumière. Et pour cela, vous bougez un peu. Lorsque la lumière est éteinte, l'information que vous avez, c'est que vous avez bougé de la longueur d'onde de la lumière divisée par 4. Okay? Donc, dans ce genre de méthode, on parle de micromètres. Hein, donc, on bouge pas avec un gros vérin. Il faut être très prudent. Et donc, une fois que vous avez réalisé ça, donc vous connaissez la longueur d'onde, vous avez mesuré la fréquence du laser puisqu'elle est monitorée avec une très grande précision et vous savez mesurer la vitesse de la lumière à un mètre seconde près. Donc ça, c'est le chiffre définitif finalement adopté pour la vitesse de la lumière. Mais c'est pas la fin de l'histoire, parce que les choses sont un peu plus compliquées, et c'est Maxwell qui va nous mettre le doigt dessus. Alors, vous rappelez de Maxwell, c'est cet Écossais qui est parvenu à ce qu'on appelle unifier tous les phénomènes électriques et tous les phénomènes magnétiques en un seul phénomène qu'on appelle l'électromagnétisme. La chose la plus importante, c'est qu'il est parvenu à déterminer comment des perturbations se propagent dans un champ électromagnétique. Alors, je m'explique. Vous avez une mare remplie d'eau, totalement plane. Vous y jetez un caillou. Jeter un caillou dans une mare veut dire vous créez localement une perturbation dans la mare. Qu'est-ce que vous observez? Vous observez des vaguelettes qui vont se propager dans la mare jusqu'au bord. OK? Si vous changez l'eau de la mare et vous mettez quelque chose, un corps bien huileux, vous verrez que la vitesse de propagation de l'onde sera plus lente que lorsque vous n'avez que de l'eau. En d'autres termes, la vitesse de propagation de l'onde dépend du milieu dans lequel l'onde se propage. D'accord? Pour le champ électromagnétique, c'est exactement la même chose. Comment je crée une perturbation d'un champ électrique? Je prends une charge électrique, je la mets quelque part. Je perturbe localement le champ électrique et le champ magnétique. Et cette perturbation, c'est Maxwell qui le dit, se propage comme une onde à une vitesse qui va dépendre des propriétés du milieu dans lequel la vitesse, l'onde se propage. Et par quoi va-t-on caractériser ce milieu? Par deux paramètres qui s'appellent epsilon, permittivité électrique, et mu, perméabilité magnétique. Alors quand les choses se passent dans le vide, on rajoute un petit zéro, on appelle ça permittivité du vide et perméabilité du vide. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'électricité, sachez simplement que ces deux paramètres qu'on sait mesurer très facilement à partir des lois simples de l'électricité, loi d'ampère, loi de Coulomb. Loi de Coulomb vous donne epsilon 0, loi d'ampère vous donne mu 0. Donc, vous mesurez très facilement la chose. Maxwell détermine donc la dépendance de la vitesse de son onde électromagnétique en fonction du milieu dans lequel elle se propage, donc en fonction de ce D paramètre, V égale 1 sur racine carré, epsilon 0 fois mu 0. Quelques années auparavant, deux chercheurs allemands avaient mesuré avec une précision assez grande ces deux paramètres, epsilon 0 et mu 0. Maxwell, bien sûr, se rue sur le résultat. Il fait le calcul. Et que trouve-t-il? Que la vitesse de l'onde électromagnétique est 310 000 kilomètres par seconde. Et c'est là que Maxwell, alors je vous lis ce qu'écrit Maxwell, l'accord de ce résultat avec les mesures de la lumière de Fizeau et de Foucault semble indiquer que la lumière et le magnétisme sont des modifications de la même substance et que la lumière est une perturbation électromagnétique se propageant suivant les lois de l'électromagnétisme. Ce que dit Maxwell, la lumière est une onde électromagnétique. Superbe. À remarquer qu'il arrive à mesurer la vitesse de la lumière sans faire intervenir la lumière. À aucun moment j'ai utilisé la lumière pour sortir ça. Et Maxwell dira, la seule utilité de la lumière dans cette expérience, c'est d'éclairer les appareils avec lesquels je fais la mesure. Donc, il associe cette vitesse de l'onde électromagnétique à C. Et je crois, oui, on est en 1907, c'est le bureau des standards des États-Unis qui ont repris les mesures de mu 0 et epsilon 0 avec très grande précision, c'est un article très long, et ça, voici le meilleur résultat qu'ils ont obtenu en 1907 pour la vitesse de la lumière, la mesure de la vitesse de la lumière sans faire intervenir la lumière. Et là se pose la question. Si vous avez bien écouté ce que j'ai lu, Maxwell écrit « La lumière est une modification de la même substance, ta-ta-ta. » Donc il suppose que comme les ondes dans mon étang est une déformation de la surface de l'eau, donc de l'eau, l'onde électromagnétique est une déformation d'une substance. Et cette substance, on va l'appeler l'éther luminifère. Ok ? Il était inconcevable à l'époque, pour des gens qui faisaient la physique ondulatoire, que quelque chose puisse onduler sans avoir un support sur lequel onduler. Un support, il fallait que quelque chose ondule. Ça. Et cet éther luminifère va commencer, bien sûr, à créer beaucoup de problèmes. Déjà, il faut que cet éther remplisse tout l'univers. S'il ne remplissait pas tout l'univers, vous ne pourriez pas voir les étoiles très lointaines. Ou alors, les étoiles que vous ne voyez pas, c'est des étoiles qui sont dans un endroit où il n'y a pas d'éther. Mais bon, passons. Donc, cet éther doit remplir tout l'éther. Et il doit avoir encore des propriétés assez bizarres. Il faut déjà qu'il soit rigide. Il ne faut pas que ce soit une forme de mélasse qui va atténuer l'onde. Vous voyez de la lumière qui vient d'étoiles très éloignées. Donc cette lumière ne doit pas être atténuée sur son trajet. Donc il doit y avoir, l'éther doit avoir une rigidité. Mais en plus, dans cet éther, les planètes, par exemple la Terre, se déplacent dans l'éther autour du Soleil. Donc cet éther doit absolument avoir aucune interaction avec la Terre ou avec tout autre objet céleste. On aurait remarqué si la Terre est ralentie par l'éther. Donc aucune résistance aux objets célestes. Et en plus, il faut qu'elle soit isotrope, puisque Maxwell nous dit que la vitesse de la lumière dans le vide est partout pareille. Donc, il faut que l'éther soit isotrope, soit partout pareil. Il ne peut pas être avec des propriétés dans un coin, d'autres propriétés dans l'autre. Et, toujours pour satisfaire le critère de Maxwell, il fallait que cet éther soit absolument immobile. L'éther ne peut pas bouger. Et c'est là que commencent les problèmes. Je vais encore revenir à Galilée, décidément. Souvenez-vous de Galilée, le principe de relativité de Galilée. Galilée nous dit, quand vous êtes sur l'autoroute, qu'une voiture vous dépasse, la vitesse que vous voyez de la voiture qui vous dépasse, c'est la vitesse de la voiture qui vous dépasse, moins votre vitesse, vitesse relative. Si les deux voitures se croisent, la vitesse que vous voyez, c'est la vitesse de la voiture plus votre vitesse, c'est plus. Et donc, les physiciens se disent, mais si la lumière se déplace à une vitesse C dans l'éther, la Terre se déplace dans l'éther à la vitesse de 30 km seconde, quelle est la vitesse de la lumière que moi je mesure sur Terre quand je croise la vitesse, la lumière, ou quand je vais en parallèle la lumière? Bonne question. Réponse à la question, il suffit de mesurer. La question est, quelle est la vitesse de la Terre dans l'éther? Et là, on va retrouver notre copain Michelson, qui cette fois-ci s'associe avec Morley. Ils vont dans l'Ohio et ils montent une manip. De nouveau, c'est un truc relativement simple. La plaque fait, je pense, 5-6 mètres. C'est un gros machin de pierre. Et ils montent là-dessus un système que je vais schématiser de la façon suivante. Alors, accrochez-vous, il faut faire attention. Alors, vous avez une source qui émet une lumière. On va toujours sur un miroir réfléchissant, la lumière qui est prolongée vers C ou vers B. D'accord? Et vous allez, donc rien ne bouge, vous allez calculer quel est le temps pour aller de A à C et de revenir en A, et quel est le temps pour aller de A à B et de revenir en A. Si les deux longueurs sont égales, la vitesse de la lumière ne change pas dans une direction ou dans l'autre, les deux temps sont égaux. Ce qui veut dire que lorsque les deux lumières reviennent en A, elles sont superposées et je peux voir des franges d'interférence constructives, une vraie image d'interférence. D'accord? Mais maintenant, si la Terre bouge, ne vous effrayez pas, c'est pas compliqué. Donc la Terre bouge dans un premier temps, la lumière va aller dans la direction de la Terre quand elle va de A à C. D'accord? Donc, le temps mis pour aller de A à C, c'est la longueur pour aller de A à C, divisé, comme je viens de le dire, la vitesse de la lumière moins la vitesse de la Terre. Ça, c'est les deux voitures qui se dépassent. Un peu plus compliqué dans l'axe perpendiculaire, mais là, très simple, si vous connaissez Pythagore, vous avez tout compris. Il faut calculer le chemin qui va de A à B, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Un des côtés, c'est la longueur de l'axe. L'autre côté, c'est la distance qu'a parcouru la Terre pendant le temps que ma lumière va de A à B. Vous calculez, vous trouvez le temps pour aller de A à B. Voici la relation. Théorème de Pythagore. Maintenant, au fait, la lumière revient. Pour aller de C à A, c'est maintenant L sur C plus V. Les deux lumières se croisent. Et Pour aller de B en A, ben c'est la même chose qu'avant, il suffit de multiplier par 2. Et vous voyez immédiatement à l'œil que les temps pour aller de A à C et retour est différent que pour aller de A à B et retour. Et cette différence de temps va pouvoir se mesurer en regardant le déplacement des franges d'interférence avec un calcul très simple. Le déplacement des franges que vous devez voir est égal à 2 fois la longueur de vos bras sur lesquels se propage la lumière, multiplié par le rapport des carrés des vitesses. Pardon ? Oh non, c'est pour la semaine prochaine. Mais Lorraine s'est inspirée de ça, c'est clair. Alors, il suffit de faire l'expérience, de regarder, et que voient Michelson et Morley. Donc, et la distance, elle, c'est 11 mètres. Ils s'attendent à un déplacement, je ne veux pas dire conséquent, mais un déplacement qu'on peut voir au microscope. Hein. Et qu'est-ce qu'ils observent ? Pas de déplacement du tout. Ou du moins, ils doivent conclure que il apparaît d'après tous ceux qui précèdent, ils voient un déplacement non mesurable. Il apparaît d'après tous ceux qui précèdent assez certain que s'il y a un certain mouvement relatif entre la Terre et l'éther lumineux, il doit être petit. Alors, beaucoup de gens ont appelé ça l'expérience nulle, la plus célèbre de tous les temps. Enfin, nulle dans le sens où le résultat est nul. L'expérience est géniale et sera reprise plusieurs fois. Alors, on a ici un gros problème. Maxwell nous dit que la vitesse de la lumière est toujours la même dans l'éther. On nous dit que l'éther doit être immobile, que la Terre se déplace dans l'éther et qu'on n'observe pas ce qu'on pense devoir observer si tout ça est vrai. Donc quelque chose doit être faux. Les équations de Maxwell sont encore assez jeunes. On dira peut-être Maxwell, c'est pas tout à fait correct, qu'il manque quelque chose. Une option. On va aussi dire l'expérience est fausse. Bon, ils l'ont refait à plusieurs fois. Je pense qu'on a une grande certitude qu'elle était bonne. On peut aussi dire que le principe d'addition des vitesses de Galilée est fausse. Ah, ça c'est peut-être une piste, mais à l'époque, on était loin d'accepter ce genre de choses. Donc on a un gros problème existentialiste. On connaît avec une précision infinie la vitesse de la lumière, mais on a ce gros problème de contradiction entre le principe de relativité qu'on trouve chez Galilée et chez Newton et cette mesure de Michelson. Alors, pour vous montrer cette indépendance de la vitesse de la lumière en fonction de l'objet qui émet la lumière, vous montrer une petite expérience. Donc, c'est l'expérience qu'on peut appeler l'expérience de la lampe de poche. Vous avez une lampe de poche, vous éclairez, la vitesse de la lumière qui sort de votre lampe de poche, c'est la vitesse de la lumière. Si vous courez avec votre lampe, est-ce que la vitesse de votre course s'ajoute à la vitesse de la lumière? Alors, on va le démontrer. Et on va pas faire une course avec une lampe de poche, mais on va prendre des choses qui vont beaucoup plus vite. Alors pour ça, on a une particule qui s'appelle un pi zéro. C'est un pion neutre qui a l'avantage de se désintégrer quasi immédiatement en émettant 2 photons, c'est-à-dire qui émet de la lumière. Alors on va produire ces pi zéro dans un accélérateur. Donc pour ça, on accélère des protons, on bombarde sur une cible de beryllium et on obtient des pi zéro qui vont à la vitesse de 99% de la vitesse de la lumière. Donc c'est carrément la vitesse de la lumière. Donc si le principe d'addition des vitesses était correct, la vitesse de ces photons qu'on sait mesurer devrait être la vitesse de la lumière plus la vitesse du pi zéro, donc 2 fois la vitesse de la lumière. Pas de chance, ça marche pas. On a mesuré et la vitesse de la lumière reste toujours égale à C. Donc, quelle que soit la source émettrice de la lumière a toujours la même vitesse. Pas évident, hein. Alors, pour finir, donc, je vais vous donner le chiffre final de la vitesse de la lumière. J'ai enlevé les erreurs. Parce que le Bureau international des poids et mesures a décidé une fois pour toutes, la vitesse de la lumière, c'est ça. Point final, on discute plus. Il n'y a pas d'erreur. C'est une valeur exacte. Et c'est ce qu'il faut adopter. Dans ce chiffre, vous allez me dire, mais pourquoi un chiffre aussi compliqué pour quelque chose qui ne change pas, pourquoi pas mettre égal à 1? Ben, ça, c'est simplement dû à notre choix qui est à la fois géocentrique, anthropique et voire même géopolitique, du choix des unités. On a choisi un jour le mètre, enfin, la Révolution française a choisi le mètre comme étant une fraction du quart du méridien qui passe à Paris. Ils ont choisi, c'est pas la Révolution, mais la définition de la seconde comme étant un 1/24 de la rotation de la Terre divisé par 60, divisé par 60. Ça date des Sumériens et des Babyloniens, le système sexadécimal. Donc, vous voyez que c'est un choix très ancien qui conduit à la fin à avoir une vitesse de la lumière qui a ce chiffre horrible qui est impossible de retenir. Alors que l'unité naturelle d'une constante devrait être 1. Et du coup, 1 dans une équation, vous pouvez l'ignorer. Imaginez ce que donne notre équation. E égale mc2, E égale m. Et si c'était le cas, j'aurais pas eu besoin de faire le cours puisque tout le monde aurait compris l'équation. Enfin, j'espère. Mais un chiffre est-il aussi arbitraire que cela? Alors, si vous me permettez une petite fantaisie, Bernard, c'est pour toi. Vous additionnez les chiffres 2 plus 9 plus 9, etc. Vous obtenez 55. 5 plus 5, 10, 1 plus 0, 1. Oh là ! C'est une réduction de l'unité naturelle. Et si vous plongez dans la numérologie ésotérique, c'est l'unité fondamentale de toute création. Alors, sans aller dans la numérologie sacrée, on tombe carrément sur Dieu. C'est étonnant, non ? Ok, fin de la fantaisie. Alors, on va en rester là, et pour le prochain cours, on va donc partir sur ce grave problème qu'on n'a pas résolu, qui est cette incompatibilité entre la physique de Newton, ce que dit Maxwell et ce que mesure Michelson. Et bien sûr, comme d'habitude, deux petites questions très faciles à répondre. La vitesse de la lumière est-elle constante? Point d'interrogation. Peut-on encore mesurer C? Point d'interrogation. Si vous avez des réponses. Merci.
Bien, merci beaucoup. Y a-t-il des questions ici ou à distance? Oui, allez-y. Et je répéterai pour... Alors la question c'est, est-ce qu'on peut observer Jupiter en plein jour pour les mesures de...
Non, il suffit de la mesurer une fois chaque nuit, hein. Ou quand vous voyez Jupiter. Mais c'est pas grave de suivre en continu. Vous mesurez l'émergence ou l'immersion à deux moments différents et vous comparez les temps. Ah non, c'est pas parce que le soleil est au milieu qu'on est en plein jour. C'est pas parce que le soleil est au milieu qu'on est en plein jour. Il suffit de quel côté de la Terre si le soleil. Ah ben, Bah, alors là, je vais me défausser, c'est un dessin de Romère, c'est pas moi qui l'ai fait.
Très bonne excuse.
Ouais, ok.
D'autres questions? Ne soyez pas timide.
Si vous avez des réponses à mes deux questions, vous êtes bienvenus. Ah non, 100% de la vitesse de la lumière, c'est masse nulle. N'importe quelle particule massive peut aller à 0,499999, vous mettez autant de 9 que vous voulez, tant que c'est pas 1, c'est bon. Ça peut aller très très vite. On verra ça, je crois, le cours prochain ou dans deux cours, on en reparlera. Mais vous pouvez aller aussi près que vous voulez de la vitesse de la lumière sans l'atteindre.
D'autres questions? Sinon, on peut signaler quand même qu'une des mesures récentes à la Michelson-Morley, ça a été fait par Alain Brier, qui est un physicien français dans les années 80, je crois, qui a été jusqu'à 10.15. C'est une des mesures récentes les plus précises. Maintenant, on est mieux plus précis que ça. Mais bon, pour une fois que des physiciens français dans l'histoire, il faut médaille d'or du CNRS il y a quelques années. Voilà, pour la petite précision. Oui, allez-y.
Ah oui, mais c'est une très bonne question qui est liée à la question précédente. FISO a fait mesurer la vitesse de la lumière dans plein de milieux. Et bien sûr, il a trouvé des valeurs différentes.
Des questions encore. La semaine prochaine, le programme, tu me rappelles, de ton cours?
Je crois que c'est E égale MC2. Hein.
Ah oui, c'est ça. Je me disais bien aussi.
On va discuter le égal la prochaine fois.
Le égal, c'est bien ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, bonne soirée.